Sommes-nous dans Livy-Lauzon, dans Beauce-Appalaches ou dans le Bas-Saint-Laurent? On va poser la question à René Hébert, qui est agent d'information et de liaison pour l'Arc-en-Ciel situé à Montmagny. Bonjour René.
Bonjour.
Où sommes-nous côté région québécoise?
En fait, on est en Côte-du-Sud, dans la région Chaudière-Appalaches, sur la
OK.
rive sud du Saint-Laurent, à peu près à 1 heure de Québec.
Ouais, ça, au niveau de la situation géographique, ça allait bien. Côte-du-Sud, donc. Et est-ce que les Bernaches et les Oies ont commencé à s'installer, mais ne sont pas encore partis, là?
Non, 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 non. Et ils viennent tout juste d'arriver, les premières qu'on
Parfait.
appelle les éclaireuses, là, viennent tout juste d'arriver. Donc, le gros s'en vient, là, dans les 2, 3 prochaines semaines.
Avec le gros festival également chez
C'est
vous.
ça, c'est ça, c'est en plein ça.
Ouais. Est-ce que le festival tient une petite note touristique pour aider l'économie locale? Est-ce que ça a lieu le premier week-end d'octobre ou le long week-end?
C'est le même week-end, là, que de la fête de l'Action de grâce.
Parfait.
Oui, le long week-end.
Bonne idée.
Oui.
Donc, vous avez, au printemps dernier, lancé un guide dont vous êtes co-rédactrice, à savoir un guide d'information pour sensibiliser aux troubles du spectre de l'autisme. Dieu sait que c'est très large, le TSA.
Oui.
Je suis curieux, il y a combien de pages, ce guide-là?
Ah, tout près de 100 pages.
OK.
Oui, c'est ça. On fait le tour vraiment de la question, là, à partir, bon, du moment où est-ce que la famille reçoit le diagnostic, on fait une définition de l'autisme, on va faire le tour des caractéristiques, des principales caractéristiques. Et puis ensuite de ça, on va s'attaquer, bon, à la démarche diagnostique, les principaux états qui peuvent être associés aussi à l'autisme. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est vraiment plus volumineuse dans le guide. C'est la partie où on décrit tous les services qui sont disponibles, que ce soit dans le réseau public de la santé qu'au privé, dans les milieux scolaires, dans les organismes communautaires. Bien entendu, on y va dans les services qu'on a de disponibles en Chaudière-Appalaches et qu'on peut aller chercher aussi à l'extérieur. On parle des subventions possibles, du processus de plainte, qui souvent, bon, c'est un incontournable à un moment donné ou un autre dans la vie d'une personne autiste et de sa famille. Ensuite aussi, on a une autre partie qui fait un tour d'horizon sur les interventions possibles en autisme. Bien sûr, on explique qu'est-ce qui se fait dans les centres de réadaptation du réseau public, mais on nomme aussi les approches considérées comme alternatives. Notre but ici, là, c'est pas de conseiller une approche plus qu'une autre, mais simplement de donner de l'information. Puis par la suite, si le parent veut aller plus loin, on donne des références vers les sites ou les ressources plus spécialisées.
Par hasard, avez-vous des trucs pour les parents, comment obtenir un diagnostic un peu plus précoce? Parce que, on le sait, c'est long et on entend de plus en plus que si l'enfant pouvait être diagnostiqué plus rapidement, il pourrait obtenir des services et peut-être minimiser un peu les inconvénients causés par le TSA.
Bien, vous savez, les parents sont quand même assez alertes, hein. C'est eux qui vivent avec leur enfant, ils connaissent leur enfant. C'est sûr que nous, dans la première partie du guide, on va énumérer une série de caractéristiques, de manifestations qui peuvent les aiguiller. Mais c'est surtout que le problème, c'est la lenteur du système. Quand on veut obtenir le diagnostic, il y a quand même quelques mois d'attente. Et puis après, quand on a le diagnostic, mais il y a encore une série de mois qui vont suivre où est-ce que le parent va sortir du bureau du médecin avec son petit papier qui dit, bon, mon enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Sauf que par où je commence? Les services de réadaptation vont arriver seulement dans plusieurs mois. Donc, dans le fond, c'est ça le but du guide, hein? C'est vraiment de leur donner quelque chose en attendant d'avoir les services du réseau public.
Je suis curieux, vous avez un enfant avec un TSA qui a maintenant 19 ans.
Oui.
Si vous aviez eu un guide comme celui-là lorsque le diagnostic est tombé, qu'est-ce que ça aurait changé?
Oh mon Dieu, ben j'aurais été beaucoup plus proactive, je pense. Parce que moi, je fais partie, malheureusement, de la catégorie de parents qui faisaient très, très confiance au réseau de la santé, qui nous disaient, inquiétez-vous pas, Madame Hébert, ça s'en vient, vous allez avoir les services. Puis bon, mais à un moment donné, ça fait que mon enfant a eu son diagnostic seulement à 7 ans. Donc, l'école était commencée, les difficultés étaient déjà bien, bien installées. C'est sûr que, bon, un coup qu'on met les services en branle, ça finit par se passer, mais on aurait évité beaucoup, beaucoup de problèmes si on avait eu le diagnostic un petit peu avant. Donc, et si j'avais eu ce guide-là qui m'aurait dit, bon, ben en attendant d'avoir les services, tu peux aller t'informer de tel côté. Il y a tel organisme qui peut t'offrir des services ou peut-être un réseau de parents qui peuvent te soutenir aussi. Donc, c'est sûr et certain que en écrivant, en collaborant à la rédaction de ce guide-là, ben moi, j'avais mon cheminement aussi en arrière de moi. Puis, je me disais, bon, ça, les parents, ils vont se poser des questions sur cette étape-là de vie. Donc, c'est important d'en parler.
Vous parliez de proactivité. C'est peut-être quand même difficile, lorsque le diagnostic n'est pas tombé, de commencer à investiguer de ce côté-là, parce que peut-être qu'on veut pas
exactement
le savoir.
Oui, puis... Maintenant, c'est sûr que, bon, la recherche aussi, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait dans le milieu professionnel aussi pour dépister précocement l'autisme. Et c'est quand même, il y a des cas qui sont plus difficiles à dépister que d'autres, hein, parce que les signes, ils sont pas tellement visibles jusqu'à temps que l'enfant, justement, entre dans le réseau scolaire, puis que là, on voit nettement qu'il va pas combler les attentes qu'est-ce qu'on attend de lui.
Bien, comme je disais, le spectre est tellement large. On n'a qu'à comparer, bon, le trouble envahissant du développement avec un autisme sévère.
Oui, oui.
Je veux dire, un est beaucoup plus facile à détecter probablement que l'autre.
C'est ça, et puis c'est pour ça maintenant qu'on va parler du spectre de l'autisme au lieu de donner des diagnostics comme Asperger, trouble envahissant non spécifié ou autisme. On va plutôt parler du spectre de l'autisme maintenant avec les nouveaux diagnostics parce que justement on peut donner une couleur justement à l'autisme de l'individu. On va le situer dans des niveaux au lieu de le catégoriser dans... Mm-hmm. Donc, justement, un diagnostic qui, des fois, n'était pas tout à fait, là, en tout cas, avec la définition là, de ce qu'on en disait.
Mais René, je ne sais pas si vous savez cette réponse-là, mais au milieu de l'éducation, est-ce que tous les TSA ont la même cote parce que tous les TSA ne représentent pas le même défi pour l'enseignant?
Oui, oui. Mais en fait, oui, la plupart des TSA ont la même cote. C'est sûr que c'est pas les mêmes défis. Il y a des TSA qui sont atteints très sévèrement, qui vont être dans des classes spécialisées et même des écoles spécialisées. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les TSA qu'on dit de haut niveau vont souvent avoir beaucoup plus de difficultés à cheminer dans les classes régulières parce qu'ils ont une intelligence très, très normale. Hein. La plupart des autistes ont une intelligence normale, mais les autistes de haut niveau vont être très performants au niveau académique, mais vont avoir tellement de difficultés à s'adapter à l'environnement scolaire, au milieu, la classe. C'est des enfants qui ont beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'anxiété. Donc, si on compare, la difficulté d'un TSA de haut niveau dans le milieu scolaire est aussi grande que celui qui va être dans une classe spécialisée ou dans une école spécialisée. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose en ça, qu'il y ait la même cote pour pouvoir recevoir les services adéquats.
Intéressant. René Hébert est agent d'information et de liaison pour l'Arc-en-Ciel, situé à Montmagny, et elle est co-rédactrice d'un guide d'information et de sensibilisation sur le trouble du spectre de l'autisme. Il y avait combien de copies au départ, au printemps dernier?
Au printemps dernier, on avait fait imprimer 600 copies. On avait estimé que sur notre territoire et avec la distribution qui se faisait en partenariat avec le réseau de la santé, on avait estimé que 600 copies, c'était suffisant. Mm-hmm. Sauf que on a eu beaucoup de demandes de l'extérieur de Chaudière-Appalaches, ce qui nous a fait très plaisir, mais en même temps a épuisé quand même notre réserve assez rapidement. Donc, c'est un mal pour un bien parce que là, présentement, on sort la deuxième édition. Là, elle va être disponible au début du mois d'octobre, juste à temps pour le Salon de l'autisme à Laval. Et puis, c'est ça, on en a profité d'ailleurs pour faire déjà des corrections parce qu'on sait que dans le réseau de la santé, il y a eu quand même plusieurs appellations qui ont changé. Donc, on a profité pour faire des petites corrections. Donc, c'est déjà une version améliorée qu'on va avoir entre les mains la semaine prochaine.
En même temps, il y a toute la section adresses et suggestions pour la région qui, elle, ne sert qu'aux gens de votre bout de pays.
Oui.
Est-ce qu'il y a quand même des pourparlers pour que, je sais pas, une association régionale dise, moi, j'aimerais avoir accès à tout le reste et je bâtirai une section référence régionale pour ma gang?
Oui, bien, en fait, j'ai pas eu vraiment de pourparlers avec d'autres régions officiel, mais nous, dès le départ, on l'a mentionné que ce guide-là était ouvert à toutes les autres régions du Québec. Et puis d'ailleurs, les associations régionales en autisme, là, dans chaque coin du Québec, ont leur propre guide de ressources, de coordonnées. Donc, c'est facile.
Reste à le greffer, c'est tout.
De le greffer.
Ouais, ouais, ouais.
C'est justement parce que, tu sais, c'est sûr que les parties, comme la partie 4, qui traite de l'environnement familial et social, eh bien, ça peut s'appliquer à tout le monde. Puis je voulais mentionner aussi que nous, dans le fond, on n'a rien réinventé, c'est qu'on a simplement tout rapatrié l'information dans un même document. Donc, c'est sûr et certain que si les gens veulent s'en servir, bien, c'est numéro un.
Donc, OK, il y a le salon de l'autisme où il y aura des exemplaires, mais sinon, une fois que celles-ci seront réimprimer, où pourrait-on se les procurer?
Bien, en fait, pour les jeunes de la région Chaudière-Appalaches, ce sera via notre organisme ou par leur intervenant du Centre local de services communautaires, c'est ce qu'on appelle le CLSC. Mais pour les gens de l'extérieur, il s'agira simplement de nous contacter directement. Le guide pour les jeunes de l'extérieur, pour les gens de Chaudière, les parents, pardon, de Chaudière-Appalaches est gratuit, mais pour les gens de l'extérieur, il va se vendre 12 $. Donc, il s'agira de nous contacter directement à l'arc-en-ciel ou soit passer par le formulaire web de notre site Internet et puis on prendra les mesures nécessaires pour faire parvenir les guides à ceux qui en voudront.
Les détails sur vusezvoix.com, allez sous le « Ça vaut le détour » du jeudi 24 septembre. René Hébert, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne continuité. Anne-Laure s'en vient.